6h44 sur France Culture, l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, le Canada et le Danemark viennent de mettre fin à un conflit territorial de 50 ans.
Oui, les gouvernements des deux pays ont signé cette semaine à Ottawa un texte qui fixe une frontière maritime de plus de 3800 km dans ce qu'on appelle le canal Kennedy dans l'océan Arctique. Il fallait pour cela régler le sort d'une petite île en plein milieu, l'île de Hans, un lopin de terre et de roche d'un peu plus d'un kilomètre carré au nord-ouest du Groenland, qui est sous autorité danoise. Malgré son autonomie en 2009, le Canada et Copenhague se félicitent d'avoir si bien et pacifiquement résolu ce litige territorial. Bonjour Mika Mered.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po qui traite notamment de l'étude des questions liées au Groenland. Alors il faut revenir sur l'histoire de cette île Hans qui a fait l'objet de ce litige pendant 50 ans. Comment l'explorateur Hans Hendrik découvre cette île au 19e siècle ?
Ben en fait, il la découvre, mais il sans la découvrir non plus. C'est-à-dire que, effectivement, pour les Occidentaux, pour les Danois, c'est lui qui est le découvreur de ce petit îlot d'un peu plus de 1,3 km². Mais en réalité, c'est une zone qui est déjà, à ce moment-là, empruntée depuis longtemps par des peuplades inuites du Groenland d'un côté, qui sont un territoire d'outre-mer depuis 1721. Donc colonie en fait danoise, et puis de l'autre côté des Inuits aussi côté canadien avec le jeune Canada qui existe effectivement officiellement depuis les années 1860-1880. Et du coup, le problème c'est que quand on va se poser la question de savoir quelle est la souveraineté qui s'applique sur cette île de Hans, eh bien de fait, on ne sait pas véritablement à qui, à quel saint se vouer. C'est-à-dire, est-ce que c'est au premier découvreur, mais en fait le premier découvreur danois n'est pas vraiment le premier découvreur, ou est-ce que c'est à une occupation, mais l'occupation elle est en fait transfrontalière.
Hans Hendrik lui-même est inuit, d'ailleurs il a inspiré un personnage de Jules Verne, le personnage du Hans Christian dans les aventures du capitaine Atterras. Le Canada, à l'époque où il découvre l'île, n'est pas indépendant, mais lui arrive pour une mission britannique, donc tout ça est très compliqué puisque le Canada sera fondé en 1867 et élargi notamment à la Grande-Bretagne.
Tout à fait, et en fait c'est vraiment le point de base de la revendication canadienne sur ce territoire, puisque à la base l'idée est simple, c'est que les îles de l'archipel arctique canadien sont sous souveraineté britannique, et l'idée quand le Canada devient indépendant, c'est que tout simplement ces îles britanniques appartiennent, sont transférées au Canada, moyennant une occupation plus ou moins régulière. Et le véritable problème, c'est que le Canada, au sens tout simplement de l'État fédéral, très peu finalement investir cette île parce que c'est un tout petit îlot assez difficile d'accès, tout au nord de l'Arctique évidemment, où il n'y a absolument rien à exploiter ou très difficile d'y vivre. Et donc de fait, le Canada va très peu s'y installer au fur et à mesure des décennies.
Et pourtant, il revendiquera une installation durable sur cette île de Hans. Et justement, le droit international parle, pour revendiquer un territoire, il y a une logique qui est celle de dire nous on y est installé durablement.
Oui, c'est l'idée. C'est soit pour revendiquer un territoire, soit vous plantez votre drapeau parce que vous êtes le premier découvreur. Soit vous plantez votre drapeau parce que vous êtes celui qui utilisait ce territoire de manière régulière. Donc typiquement, pour donner une analogie, l'analogie assez facile, c'est l'Antarctique en France. L'Antarctique en France, découverte par Dumont d'Urville, 1840, cette partie de terre, la Terre Adélie, à l'époque, il revendique ce territoire. Mais de fait, la France ne va occuper vraiment ce territoire qu'à partir des années 1950, donc plus d'un siècle plus tard. Donc de fait, là, on est sur le même genre de problème côté canadien. Il y a eu une petite station qui a été installée durant la Seconde Guerre mondiale. Puis, il y a eu un certain nombre de positionnements avec des expéditions, avec un petit cairn, un petit message qui a été laissé là-bas aussi dans les années 50.
Une structure de pierre, un petit cairn.
C'est ça, c'est une structure, les Bretons le savent, c'est une structure de pierre effectivement faite par l'homme. Et de fait, cette structure, avec surtout le petit message qui va avec, qui a été posé en 1953 par les Canadiens, c'était l'occasion justement donc d'un programme de quantification territoriale à l'époque déjà.
Alors, sauf que la Convention de Genève de 1958 a fixé de nouvelles règles en matière de partage des espaces maritimes. Mika Mered, donc des États voisins se partagent les espaces maritimes frontaliers selon une ligne équidistante des deux côtes. On aurait pu en rester là et se dire, cette règle de droit facilite le règlement du consensus, mais cette île de Hans, elle est exactement traversée par cette ligne et c'est là que ça se complique.
C'est là le problème. Alors, le passage Kennedy ou Kennedy Channel, comme les Anglais le disent, d'où la confusion parfois Canal Kennedy, mais peu importe. Ce passage Kennedy, tout simplement, l'idée de la Convention de Genève de 58, première grande convention internationale sur le droit maritime, c'est de dire, vous avez deux territoires qui sont proches l'un de l'autre, vous allez trouver une voie médiane et dire, en fonction de l'équidistance de la côte de part et d'autre de l'espace, vous allez donc tracer la frontière maritime au milieu. Là, dans l'espace dont on parle ici au nord du Groenland, on est sur un espace extrêmement étroit, c'est-à-dire on n'est pas du tout sur une mer où vous allez trouver des zones économiques exclusives, 200 milles nautiques, etc. C'est vraiment que de la mer territoriale. On est sur moins de 12 milles nautiques. Et donc, de fait, il fallait passer au milieu pour partager la frontière. Sauf que, comme vous l'avez bien dit, l'île de Hans est la seule île qui est pile exactement au milieu, et c'est justement ce qui a fait l'objet donc de contestations. Comment partager l'île? Est-ce qu'on le fait sur cette base maritime de « on coupe au milieu » ou alors est-ce qu'au contraire, on est obligé de poser des points d'une part et d'autre de l'île, mais ne pas choisir?
Mais franchement, pourquoi ici attache tant et le Canada et le Groenland à cette île, puisqu'il n'y a pas grand-chose, vous le disiez vous-même?
Ah, c'est de la symbolique, évidemment. On est dans les années 50 à ce moment-là, puis ensuite années 70, 80, et on va aller jusque dans les années 2000. L'idée, elle est simple, c'est que ces territoires arctiques, d'une part, ils sont évidemment de plus en plus convoité, et en particulier à partir des années 70, puisqu'on va être dans cette démarche de trouver, à partir de 73-74...
Le choc pétrolier.
Exactement, on a le choc pétrolier. Et donc, il fallait surtout ne pas perdre un territoire qui pourrait potentiellement amener des ressources pétro-gazières à ce moment-là. Et le véritable problème, c'est qu'à ce moment-là, dans les années 70, donc 73-74, on ne sait pas du tout, ni Danois, ni Canadiens ne savent ce qu'il y a comme pétrole potentiellement au fond de ce passage de ce passage Kennedy, mais il ne faut pas perdre de territoire.
Donc ça ne devient pas vraiment un conflit diplomatique, ça commence avec la guerre des drapeaux, le concours du planter de drapeaux, les Canadiens viennent planter un drapeau, les Danois viennent planter leur drapeau, certains apportent des bouteilles de whisky canadien, de spritz côté danois. Bon, c'est devenu une blague entre eux, ouais. Mais la vraie blague, Mika Mered, c'est qu'il n'y a pas de pétrole.
Alors oui, le whisky, le schnapps, c'est marrant, c'est pas grave, le spritz, après tout, il fait chaud, c'est tout à fait normal. Mais voilà, donc c'est tout à fait normal qu'ils essayent d'avoir ces différentes postures, parce que comme on est dans la symbolique, et comme évidemment le Danemark d'un côté, auquel le Groenland appartient toujours à ce moment-là, et le Canada sont des membres de l'alliance otanienne, donc tout simplement l'alliance militaire nord-atlantique, et de fait ne vont pas se faire la guerre entre eux, ça n'a aucun sens, surtout pour ces territoires-là. Donc il fallait trouver des moyens d'avoir une posture qui permettent d'affirmer la position sur le territoire. Et c'est pour ça que les Danois, très simplement, au titre de cette idée donc de premier découvreur, comme on le disait au début, vont dans les années 80, puis dans les années 90 et 2000 encore une fois, envoyer des avions, envoyer des ministres aussi. Le ministre du Groenland en 84 s'est rendu sur cet espace, ministre du Groenland, un peu comme le ministre des Outre-mer chez nous à l'époque, et ont planté des drapeaux. 84, 95, 2002, 2003, 2004, à chaque fois les Danois vont planter des drapeaux et les Canadiens vont protester officiellement.
Bon, et alors comment finalement est réglée la question là cette semaine? Qu'est-ce qui dit le texte? Qu'est-ce qui se passe avec cette île de Hans?
Alors ce qui est très marrant, c'est qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites par des spécialistes de l'Arctique, notamment des juristes canadiens, qui disaient simplement, il faut imaginer soit faire un partage territorial, donc partager la terre de part et d'autre, c'est ce qui a été choisi, je fais un spoiler, 60% pour les Danois, 40% pour les Canadiens, sur la base justement de cette équidistance par rapport à la grande côte du Groenland d'un côté et la grande côte du reste de l'archipel arctique canadien. Mais il y a d'autres qui ont proposé aussi des partages temporels, par exemple faire comme sur l'île des Faisans entre la France et l'Espagne, où tous les 6 mois, la souveraineté change. Et du coup, ce qui a été choisi, c'est donc ce partage territorial. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment tout ça s'inscrit dans une logique de pacification de l'Arctique, en tout cas du point de vue canadien et du point de vue danois, dans le contexte de la déclaration d'Ilulissat de 2008, une déclaration qui rassemble les 5 pays côtiers de l'océan Arctique et qui disait « tout nos litiges territoriaux, qu'ils soient terrestres ou maritimes, devraient absolument être traités par la voie diplomatique et jamais par la voie militaire. » On est dans ce contexte-là.
On sent qu'ils en font d'ailleurs un élément de communication, et le Canada et le Danemark, en disant « Voyez, regardez, en pleine guerre en Ukraine, on arrive à régler ce litige-là. » Sauf que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les enjeux soient les mêmes sur cette île de Hans, surtout qu'on disait qu'il n'y a pas de pétrole. Et d'autant que le Groenland a, ça y est, depuis un an, a dit plus d'exploration pétrolière chez nous.
Exactement, on est dans un double contexte de refus de toute manière de l'exploitation pétrolière dans cette zone de l'Arctique. Alors, tout l'Arctique, évidemment, n'est pas sous moratoire pétrolier, loin de là. Au contraire, on n'a jamais autant foré et on n'a jamais autant exploré et exploité de ressources pétro-gazières ou encore de charbon ou de minerais, même pour des outils de transition énergétique, soit dit en passant, en Arctique. On n'en a jamais fait autant qu'aujourd'hui. Et du coup, dans ce contexte-là, du côté canadien, on a un premier ministre libéral, donc de gauche au niveau fédéral, libéraux canadiens, c'est la la gauche, qui, depuis donc 2016, impose très clairement le fait qu'il n'y a pas d'exploitation de pétrole ou de gaz en Arctique. En tout cas, maritime. Et puis de l'autre côté, côté groenlandais, ben quand les Groenlandais ont obtenu une capacité de gouvernance autonome à partir de 2009, là, cette fois-ci, ils ne sont plus véritablement un outre-mer en tant que tel, mais vraiment, il y a un gouvernement autonome. Ils ont la compétence sur leur sous-sol, mais il y a un shift, un changement générationnel politique complet au Groenland sur les 10 dernières années. Là où les anciens, qui aujourd'hui ont 50 ans, 60 ans, et qui dirigeaient le pays dans les années 2009, 2010, 2011, espéraient grâce au pétrole, au gaz, faire du Groenland une espèce d'émirat pétrolier du Grand Nord, aujourd'hui, la nouvelle génération, les moins de 40 ans, disent l'indépendance à tout prix. Et notamment au prix de l'environnement, c'est pas possible. Et en juillet 2021, le gouvernement actuel du nouveau Premier ministre Mutsiegede, 35 ans, a dit très clairement plus d'exploitation de pétrole ou de gaz au Groenland.
Pour conclure, mes camarades, en quelques mots, on parle de cette première frontière entre le Canada et l'Europe. Alors, est-ce que l'île de Hans devient une frontière extérieure de l'Union européenne? Elle devient surtout, pour le Canada, une frontière terrestre avec un pays autre que les États-Unis.
C'est ça. C'est la première frontière terrestre que les Canadiens négocient avec un pays autre que les États-Unis. C'est assez émouvant. Et puis, par ailleurs, effectivement, ce n'est pas une frontière extérieure de l'Union européenne. Pour la faire courte, sur les Outre-mer, il y a deux statuts européens, un statut RUP, un statut PTOM. Quand vous êtes un RUP, comme la Guadeloupe ou la Guyane, vous êtes un territoire de l'Union européenne à part entière. Quand vous êtes un PTOM, un pays et territoire d'outre-mer, comme le Groenland ou la Polynésie chez nous, vous n'êtes pas un territoire de l'Union européenne, vous êtes un territoire rattaché à un pays, membre de l'Union européenne. Donc oui, il y aura une frontière entre le Canada et l'Europe, au sens d'une frontière entre le Canada et le Danemark, mais pas entre le Canada et l'Union européenne.
Merci beaucoup, Mika Merad, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, non, en fait, lundi, pour dire la vérité, lundi, pour de nouveaux enjeux. Oui, en podcast par exemple. Lundi pour des enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.